Claudine Vidal, bonjour.
Bonjour.
On dit que la dynastie du roi Kigeli V remontait au XIe siècle, c'est vrai ou pas?
C'est une tradition orale qui le dit, mais ça n'est pas du tout attesté, il n'y a pas de documentation. Mais en tout cas, elle est certaine depuis le XVIIIe siècle.
Une dynastie puissante dans cette région des Grands Lacs?
C'était une dynastie solide.
Est-ce que la monarchie était une institution tutsi?
Oui, mais à l'époque, avant la colonisation, la variable Hutu ou Tutsi n'avait pas du tout le même sens, n'avait pas ce sens ethnique.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, le mot Tutsi à l'époque voulait dire puissant. Ça n'avait pas un sens plus large qu'il a pris après.
Ça n'avait pas le sens ethnique?
Absolument. Par contre, la dynastie, effectivement, était entièrement pastorale, c'est-à-dire que les valeurs suprêmes étaient liées au bétail. Et c'est plutôt ça qui assurait la valorisation des élites proches de la monarchie.
En 1961, quelques mois avant l'indépendance, les colons belges ont organisé un référendum pour ou contre l'abolition de cette monarchie. Et 80% des Rwandais ont voté pour l'abolition. Pourquoi une si forte majorité contre le jeune roi Kigeli V?
Eh bien, c'est qu'il y a eu des événements entre son intronisation et ce référendum. Je peux peut-être vous parler de son intronisation, qui est assez intéressante.
En 1959.
Oui. Il faut se souvenir que le roi Mutara, qui est décédé le 25 juillet 1959, brutalement, déjà à ce moment-là, il y avait beaucoup de remous au Rwanda. C'est-à-dire que les élites d'origine Hutu commençaient à mettre en question très vivement les privilèges des élites Tutsi, favorisées jusqu'à ce moment-là par les représentants belges. Le 28 juillet 1959, c'est le jour de l'enterrement du roi Mutara à Nyanza, donc près de la capitale royale, et en présence d'une foule très nombreuse. Il s'est passé un événement que n'avaient pas du tout prévu les autorités belges. Il faut juste savoir que le Mwami, donc le monarque, était conseillé par les Abirou. Les Abirou étaient des ritualistes très au courant des secrets de la dynastie. Or, au moment de ces funérailles, un représentant des Abirou prend la parole et dit, voilà, le conseil des Abirou a décidé que le nouveau Mwami doit être présenté dès maintenant et son nom, c'est Untel. Et les Belges n'avaient pas du tout prévu ce qu'ils ont, eux, appelé un coup d'État. Seulement, il y avait une grande foule. Une partie de cette foule portait des lances, des armes. Il y a eu une grande pression. Le futur roi, donc Jean-Baptiste d'Ahindurwa, est sorti de la foule et il a été immédiatement applaudi. Le gouverneur qui était présent sur la scène a dû s'incliner. Évidemment, les autorités belges étaient absolument hors d'elles.
Furieuses.
Oui, furieuses. C'était effectivement très très bien préparé de la part des Abirou et du petit clan qui soutenait ce prétendant. C'était un demi-frère du roi décédé. Il a eu un règne très court puisque à partir de ce moment-là, il n'a pas arrêté de s'opposer aux nouvelles réformes que voulait imposer les mandants belges, et notamment des élections mettant au pouvoir une nouvelle élite administrative. Les choses se sont nettement gâtées, si bien qu'en novembre, il y a eu des émeutes à caractère très mortel, une guerre civile, on peut dire.
En novembre 59?
En novembre 59. On a appelé cet épisode très lourd la Toussaint rwandaise. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que beaucoup de Tutsis partent en exil. Et à partir de ce moment-là, Kigeri, il s'appelait Kigeri de son nom de sacre, Kigeri s'oppose systématiquement à toutes les réformes proposées par les autorités belges. Des élections ont tout de même lieu, bien qu'il s'y oppose, et qui sont un plébiscite, littéralement, pour les autorités Hutu. Et ce n'est que le 28 janvier 1961 que la proclamation de la République fut organisée avec l'aide de la force militaire belge, ce qui fut le dernier coup d'État de cette période.
Une abolition approuvée par 80% des Rwandais quand même.
Oui, oui, mais c'est parfaitement explicable, étant donné que déjà des élections avaient montré que les élites Hutu avaient gagné la partie.
Après le génocide de 1994, le roi déchu espère rentrer au Rwanda en qualité de monarque constitutionnel, comme une sorte de reine d'Angleterre. Et en 1996, lors d'un tête-à-tête à Washington, il le dit ouvertement au vice-président Paul Kagame, mais celui-ci lui répond qu'il ne peut rentrer que comme simple citoyen. Pourquoi le FPR est-il hostile à une restauration monarchique à ce moment-là?
Parce que les monarchistes étaient en fait des opposants à Kagame. Réclamant une monarchie constitutionnelle, c'était vouloir réduire le pouvoir de Kagame.
Est-il vrai que la tante de Paul Kagame a été la dernière épouse du roi Mutara dans les années 50?
Le roi Mutara n'a eu qu'une épouse et c'est cette personne.
Ces derniers mois, seuls les opposants du Parti Vert Démocratique appelaient au retour du roi déchu. Est-ce qu'ils représentaient l'opinion d'une partie des Rwandais?
Je l'ignore complètement.
Le roi n'a pas de sang sur les mains, il n'est ni Hutu ni Tutsi et peut aider à la réconciliation, disait le Parti Vert démocratique ces derniers mois.
C'était un peu l'idée du Parti Vert, mais avant le Parti Vert, d'autres partis. Ils espéraient un peu quelque chose comme la monarchie espagnole, comme le retour du roi espagnol en Espagne.
Après la mort de Franco.
Voilà.
Après la mort de Kigeli V, est-ce qu'il peut y avoir un nouveau prétendant ?
Ah, logiquement, il faudrait des birous, donc ces conseillers dynastiques. Est-ce qu'ils existaient encore ? Je l'ignore complètement. Hein. Mais enfin, ce roi est mort sans enfant. Hein. Il faudrait que des birous désignent quelqu'un d'autre de la lignée de Kigeli.
Claudine Vidal, merci.